Vous écoutez
RMC. RMC. 15h-18h, le meilleur du Super Moscato Show.
Pierre Dorian, Adrien Aygouin.
Le meilleur du Super Moscato Show, c'est tous les jours de 15h à 18h sur RMC, même pendant l'été, même quand vous êtes en vacances, même quand vous allez au travail.
Il a bugué, il fait trop chaud. Qu'est-ce qui se passe? Bon, vous écoutez le meilleur du Moscato Show. Pierre Dorian est en surchauffe.
Parce que là, c'est vendredi 14 août.
T'as pas envie d'être au travail?
On a hâte d'être en week-end.
Là, je sais que tu n'as pas envie d'être au travail, Pierrot, 14 août. Mais là, ce soir, tu prends la voiture, je crois, non? Tu pars où là?
Ah là, non, là, je suis au Japon, là, je suis désolé.
Ce soir, Pierrot, il prend la bagnole, il part à Tokyo. C'est la magie de la radio. Bon, super programme.
Je vous ramènerai des cadeaux. Hein.
Un super programme jusqu'à 18h. Bah tiens, je me fais de la pub.
Alors,
ma propre pub, Journal Moyen 2ème édition. À 16h45, on va revivre un moment mythique du Moscato Show dans ce Journal Moyen. La fameuse séquence accroupie. On vous en dit pas plus si vous ne connaissez pas cette séquence, c'est magique.
Je pense que beaucoup ne connaissent pas parce que ça remonte à il y a très longtemps. Hein. Mmh. On va parler tennis dans un instant, débat sur Arthur Fils. Vous réécouterez Jimmy Gressier, il est génial, Jimmy Gressier, le champion du monde du 10 000. Et puis la Ligue des Champions, bien sûr, c'était un grand moment de la saison. Le PSG, celle-ci, la deuxième est-elle plus belle que l'an dernier? Allez, tout de suite, Moscato sceptique sur Arthur Fils.
Arthur Fils, c'est la promesse du tennis français.
On est la risée de toute la France, on déconne.
Le plus jeune joueur du top 50 mondial.
Et après, de toute façon, devant les grands champions, comme avec Novak, il va s'aplater comme une crêpe.
Derrière ses apparentes certitudes se cache parfois de la nervosité.
Ce gars, il est payé 300 000 balles par mois, il n'est même pas capable de tirer un pénalty contre un gardien de Ligue 2.
Une ascension fulgurante grâce à deux demi-finales et un premier titre à 18 ans.
Là, j'ai l'impression qu'il est râpé. Si tu me dis, on va faire un tournoi, on va faire un grand chelem, la prochaine à Wimbledon.
Le rookie du circuit ne perd pas de temps.
Tu vas affronter aujourd'hui ton cousin français, Arthur
Rinderberg.
Arthur Fils débarqué sur le circuit disait vouloir être numéro 1 mondial et gagner un grand chelem en moins de 5 ans.
Non, mais ça, c'est typiquement les joueurs qui savent pas jouer qui disent des trucs pareils.
Et Moutou, un point commun avec Stallone. Pourquoi? Parce qu'il va peut-être être rookie.
Quoi?
Il va peut-être être rookie.
Mario Bartoli, il va te le régler le problème.
Bon, alors avant de démarrer quand même, Denis, oui. L'autre Arthur part.
Non,
je savais que t'allais me le faire.
Arthur,
non.
Allez,
Rinderscherche.
Vas-y, il l'a jamais trouvé.
C'est une
jamais trouvé.
Non, mais je savais, en plus je réponds.
Il cherche, mais qui cherche se trouve.
Denis, allez, deuxième.
Oui, Rinderschnech.
C'est dramatique.
C'est mieux là.
Non,
c'est mieux.
Ah, c'est mieux.
Allez, on encourage, c'est mieux. Donc on y va. Alors pourquoi on parle tennis aujourd'hui? Parce que c'est le début de la saison sur terre battue. Pour une fois, on a un peu d'espoir pour le tennis français, mais même à Roland-Garros, donc on est content. On se souvient évidemment de Loïs Boisson l'an dernier. Et puis chez les hommes, il y a un homme en forme, c'est Arthur Fils. Le problème d'Arthur Fils, c'est qu'après un match extraordinaire face à Tommy Paul à Miami, il a craqué en demi-finale contre l'EHK. Et Vincent pense qu'il ne va pas casser la baraque comme ses prédécesseurs, qu'il ne peut pas aller au bout et gagner un grand chelem. Eh bien, Marion Bartoli règle le problème sur RMC. On va quand même mettre le focus sur les perfs d'Arthur Fils avec Anthony Resch. Salut Anthony.
Bonjour à tous.
Début de saison très convaincant tout de même.
Oui, après 6 mois d'absence dû à cette fracture de fatigue au dos, eh bien Fils est donc revenu sur le circuit après l'Open d'Australie et c'est un comeback qui a marqué les esprits. Après un premier quart de finale à Montpellier, il s'est hissé en finale à Doha, puis il a réalisé une très belle tournée américaine avec un quart à Indian Wells et cette demi-finale donc à Miami. Pierrot, il est désormais 8e à la race, ce classement calculé sur les performances de la saison en cours. Et ce ne sont pas ses premiers coups d'éclat, évidemment. L'ancien 14e mondial avait déjà performé par le passé avec 3 quarts de finale consécutifs en Masters 1000, dont un à Monte Carlo en 2025 et 2 titres en ATP 500, les Aspro 500 Vincent, en 2024 à Hambourg, en s'imposant face à Alexander Zverev et à Tokyo face à Hugo Humbert.
C'est quand même des références. Vincent, il y a quand même... Bon, je ne sais pas si tu as changé d'avis depuis sa demi-finale qui nous a tous déçus, mais il y a quand même un garçon là, il y a quand même un champion.
Non, mais si c'est pour me dire, Pierrot, que c'est un beau joueur de tennis, c'est un beau joueur de tennis. On en a plein de beaux joueurs de tennis. C'est un beau joueur de tennis, un de plus. Est-ce que c'est un champion? Un grand champion. Alors si tu me dis de gagner des Aspro ou 1000, c'est bien, t'es un champion. Est-ce qu'il va gagner, est-ce qu'il, comme la petite Bartole, est-ce qu'il va gagner Wimbledon? Est-ce qu'il va gagner Roland-Garros? Est-ce qu'il va gagner le Flushing Meadow? Voilà. Wow. Tu vois tout ça. Voilà. Non, mais je me pose, est-ce qu'il va se hisser avec les garçons de son âge, comme Alcaraz, comme Sinner, comme les meilleurs? Parce qu'en vérité, maintenant, ça fait 45 ans que le pauvre, il serait avec nous. Tu vois, Yannick, il serait encore en vie. Il nous en parlerait de sa victoire
à
Roland Garros. Mais bon, et, tu vois, ce que je veux te dire, c'est qu'à bout d'un moment, on fait un champion. On en a eu des très bons. Ils sont très bons. C'est bien sûr que c'est des grands champions. Mais le champion, ben c'est voilà,
toi, je vais pas lui brosser.
Parce que tu crois que moi, c'est, mais oui, ça m'intéresse au tennis, c'est un sport individuel. Il te faut un boxe, il te faut le champion du monde au tennis, il te faut un mec qui remporte un tournoi du Grand Chelem. On t'en demande pas 50, on en demande un et des As pour 1000 et tout ça, et on te suivant, on applaudit, on dit, oh le brave passe pour 500 à Vichy, oh oui, il a gagné. On s'en fout.
Voilà, le sport du Grand Chelem, c'est pour 500 à Vichy.
Oui, voilà, tu comprends ce que je veux te dire. On veut, c'est comme je te disais, le tournoi, c'est super le tournoi qu'on a fait avec l'équipe de France, mais un Grand Chelem.
Une star, hein, et il a gagné des Master 1000.
Il a gagné
des Coupes Davis,
pour être un peu plus près des étoiles. Au jardin de lumière et d'argent, il faut gagner Wimbledon, il faut gagner Roland Garros, il faut, et je fais pas ça parce qu'il y a la petite, tu connais mon avis là-dessus, ça
oui,
fait
c'est pour ça qu'on a demandé à Marion toujours de dit, régler le problème.
Je te l'ai toujours dit, j'ai du mal. Et voilà. Alors après, bien entendu, que le type de toute la génération, les mousquetons qu'on a eu, eh ben, ils étaient bons. Bien sûr qu'ils étaient bons, les quatre mousquetons. Mais il manque un truc.
Alors après, on peut prendre étape par étape. Déjà, perdre contre Lechka en demi, quand tu as battu Tommy Paul dans un match extraordinaire en quart. Est-ce que tu es déçu, Marion, quand tu vois ça?
Moi, je suis déçu.
Voilà, c'était prévisible. C'était prévisible. Et pour être honnête, alors j'avais pas anticipé une défaite aussi sèche parce que le score était extrêmement sévère.
6-2.
Mais merde. Je savais que pour Arthur, ça serait extrêmement compliqué pour lui de rebondir pour une simple raison, c'est que ça a été évoqué dans le sujet. La période d'arrêt pour lui a été énorme. Et Toronto, franchement, je le compte même pas comme un tournoi de reprise parce qu'il avait eu quasiment aucun entraînement auparavant. Il est arrivé, il a fait à peine un match, il a fait forfait directement derrière. Donc sa blessure, en fait, il la traîne depuis Roland Garros. Donc ça fait 2/3 de saison en moins l'année dernière. Après ça, il a eu énormément d'enchaînements puisqu'il a raté tous les tournois en Australie, dont l'Open d'Australie. Et que donc, il n'a fait qu'enchaîner derrière des tournois. Arrivé après un match qui est aussi poussé dans sa dramaturgie que celui contre Tommy Paul, parce qu'il le remporte, ça c'est au troisième, mais au-delà de ça, il n'y a eu aucun break pendant tout le match. Le match a été joué sur quelques points, il avait 4 balles de match consécutives à sauver. Il arrive sur le central de Miami avec tout le public américain qui était en folie à le remporter. Quand t'as pas fait de match à haute intensité comme ceci depuis très longtemps et que tu les as pas enchaînés, c'est évident que la redescente derrière, elle va être très brutale, tout simplement parce qu'il faut se réhabituer à tout ça et que ça prend du temps. Moi, ce qui me plaît énormément dans son évolution actuelle, c'est qu'il a une prise de conscience des défauts qu'il avait auparavant, qui pour moi, effectivement, s'il continuait dans ces défauts-là, l'aurait empêché d'aller gagner. Par exemple, je le trouvais trop lourd sur le terrain. Il le sait, il a fait un travail énorme en termes d'affûtage. Il a perdu 7 kilos uniquement que de gras, parce que bien évidemment, il faut garder la masse musculaire.
Là, tu as autant de gras que ça à perdre.
Oui, bien sûr. Il y a des morphologies comme ça de joueurs qui sont plus lourds que d'autres, qui sont plus massifs. Il a engagé un chef cuisinier qui voyage avec lui, qui lui prépare ses plats, donc il fait des sacrifices importants. Il va pas au restaurant pour pas manger une nourriture qu'il a pas préparée par lui-même. Il y a un nutritionniste qui lui comptait le nombre des calories qu'il devait manger par jour. Pendant la période où il a pu reprendre ses entraînements, je vais continuer parce que si je m'arrête à chaque blague, je vais pas y arriver.
Excusez-moi.
Il s'est entraîné entre 10 et 11 heures par jour dans toute sa période d'entraînement quand il était en Allemagne. Je pense pas voir très peu de joueurs, même lorsqu'ils sont en période d'entraînement, qui sont envoyés des volumes pareils. Parce qu'il avait besoin de ce volume-là pour reprendre la caisse physique. Il faut se rendre compte aujourd'hui.
Je change d'avis complètement.
J'ai eu la chance d'être effectivement en bord de terrain pour faire la fin du tournoi de Miami. L'impact physique que Sinner vous met dans un match, Lechka d'ailleurs en a fait malheureusement les frais pour lui en finale, il est colossal. Donc si vous n'êtes pas prêt physiquement à encaisser ça, bien évidemment que d'aller chercher sur un tournoi du Grand Chelem avec des matchs qui peuvent être extrêmement longs, on se souvient de la finale de Roland Garros l'année dernière, ça ne va pas s'inventer
Sinner
du jour au lendemain.
Domine physiquement tant que ça les meilleurs mondiaux.
Ah oui.
Ouais.
Mais c'est pas l'impact un problème mental physique à un moment donné aussi.
Non, c'est un problème d'être en capacité d'avoir la préparation nécessaire pour pouvoir tenir sur une distance qui va être extrêmement longue, parce que sur un tournoi du Grand Chelem, ça va jouer sur la longueur. Vous n'allez pas mettre 3-7 à 0 à ce genre de joueur, c'est impossible. Ben oui. Donc on l'a vu pour Novak Djokovic, pour battre Yannick Sinner, ça a pris quoi, plus de 5h30, 5h20, la demi-finale. Donc ça va prendre énormément de temps, il faut être prêt à encaisser ça. Donc pour moi, Est-ce qu'il va le faire demain? Pour répondre à ta question, non. En revanche, est-ce qu'il met tous les ingrédients de son côté pour y arriver un jour? Oui, après, je n'ai pas la réponse. Mais je n'ai pas la réponse, je ne peux pas t'anticiper ce que ça va faire dans 5 ou 6 ans.
Au prix où on te casque, tu nous réponds. Ouais.
Mais ce que je te dis, c'est que moi, personne n'aurait mis une pièce sur moi pour gagner un grand chelem un jour. Et pourtant, je l'ai fait sans perdre un set.
Oui, mais j'ai une question, Marion. Est-ce qu'il a le jeu pour gagner un grand chelem? Mais est-ce qu'on peut le savoir aujourd'hui?
Il a le jeu, il a le jeu, il a les armes, il a le, entre guillemets, le charisme. En tout cas, la personnalité nécessaire pour rentrer sur un court plein devant un Alcaraz ou un Sinner et d'aller les chercher, ça oui, clairement. En revanche, que pour l'instant, il y a encore un gap tennistique, surtout en tournoi du Grand Chelem par rapport à ces deux grands champions. Oui, il le sait. Mais ce que j'aime bien dans son attitude, c'est qu'il met tout en place pour essayer que le gap soit de moins en moins important. Et, alors, et qu'il se resserre. Et pour terminer là-dessus, parce que j'en terminerai là-dessus, un autre joueur qui était un très bon joueur, qui s'appelait Karen Khachanov, a eu exactement la même blessure qu'Arthur Fils. Il a mis beaucoup plus de temps pour récupérer. Et ça a été très, très difficile pour lui, après ça, d'enchaîner des bons résultats. Déjà, pour Arthur Fils, aujourd'hui, de faire demi-finale d'un Master 1000, qui est le meilleur résultat en Master 1000 pour lui. Son meilleur résultat jusqu'à présent, c'était quart de finale. Il revient du blessure, il fait encore mieux. Moi, je dis que tous les signes sont positifs et qu'effectivement, j'aime beaucoup ce joueur par sa capacité à se remettre en question et à essayer de progresser.
Vincent, tu allais poser une question.
Non, j'ai dit, s'il gagne un grand chelem, au moins j'aurai l'occasion de le voir dans la maison de vacances de Denis. Quoi. Il dira en roi, il le mettra à lui. Quoi.
Voilà, merci. Oui, il faut gagner. Voilà, ah, bah, il faut gagner.
On a marre, ça fait 30 ans qu'on se le
cire. Les champions passent chez Denis Charvet. Voilà,
voilà,
ah,
tous les champions
passent chez Denis. Yannick Noir.
Du maire de Yaoundé.
D'accord, d'accord.
Le maire de Yaoundé, bien sûr.
Après, juste avant de te donner la parole, Denis, tu disais sur le plan tennistique, il y a encore un gap avec les deux. Sur quel coup précis, par exemple, il doit progresser?
Tu vois, ils sont joués en finale de Doha contre Alcaraz. Pardon, tu as vu le résultat. Bon, Alcaraz, il a cette capacité de force de frappe instantanée, comme à Sinner d'ailleurs, où il prend le jeu à son compte tout de suite, il vous met tout de suite en secteur défensif, et si vous n'êtes pas capable de répondre sur les premiers coups, c'est extrêmement compliqué. T'es pris à la gorge tout de suite, et t'as plus aucun temps de réagir. Mais pour ça, pour arriver à contrer ce genre de joueur, il faut avoir une capacité de vitesse de déplacement qui est énorme. Ce qu'a Zverev, ce qu'a aussi le Djokovic.
C'est plus de la vitesse de déplacement que de la technique pure.
Exactement. C'est pour ça que la partie affûtage était essentielle.
Il a accéléré, il a augmenté sa vitesse.
T'as 7 kilos de moins, tu vas quand même plus vite sur le terrain. Donc, il est, pour moi, il fait les bonnes choses. Laissez-lui un tout petit peu de temps. Et je suis persuadée que cette année, Roland Garros, il va faire quelque chose de beau et qu'il va faire sauver le public.
Denis, écoute, non, mais moi, ce garçon, il m'épate. Alors après, de dire que ça va être un grand champion et qu'il va gagner un grand chelem.
Il n'est pas encore Arcachon dans ta maison.
Mais personne n'est capable de le dire. Même toi, Marion, il a tous les atouts, il a toutes les, comment dire, les capacités à aller chercher le Graal, mais, j'ai l'impression quand même, alors, il me bluffe par sa maturité. J'ai l'impression qu'à 21 ans, il est déjà mature. Il sait ce qu'il veut, il sait où il va. Il déclarait après la demi-finale, il dit c'est juste que mentalement, je dois trouver quelque chose pour m'aider à donner plus. Dans ce genre de match important, je dois pouvoir trouver l'énergie. Donc il est conscient quand même qu'il y a encore ce manque-là chez lui. Donc c'est peut-être pas physiquement, c'est peut-être aussi mentalement qu'il doit, dans les moments forts, trouver cette énergie-là.
Mais en fait, là, si tu veux, pour arriver à faire cet enchaînement-là, il n'a pas assez eu de semaines de match pour
de préparation.
Faire...
De match. Ouais.
Parce qu'en fait, le match te prend bien sûr l'énergie physique, mais surtout te prend une énorme énergie mentale. Ouais. L'énergie mentale, elle est colossale, même plus qu'au-delà de l'énergie physique. Mmh. Et pour arriver à rebondir,
il faut
avoir l'habitude de le faire. Regarde, Sinner, ça fait 34 sets consécutifs qu'il gagne en Master 1000. Il a gagné le Rolex Paris Master sans perdre un set, Indian Wells sans perdre un set, Miami sans perdre un set. Pour lui, c'est une routine. La finale, c'est une routine. La demi, c'est une routine. Pour arriver là-dedans, il faut arriver à les enchaîner, les performances.
Et juste sur la valeur étalon décrétée par Vincent Moscato, c'est son droit. Il faut gagner un grand chelem, sinon il manque énormément de choses. Je vais vous citer des joueurs. Très grands joueurs. Marcelo Rios, Correa, David Ferrer, Guillermo Coria, Söderling, Thomas Berdych.
C'est pas des stars.
Là-dessus, je suis d'accord.
Mais ce sont des grands champions de tennis. Je veux dire, Marcelo Rios a marqué l'histoire du tennis quand même.
Il n'y a pas de débat.
Correa, moi je pensais qu'il avait gagné un tournoi du Grand Chelem, Correa. Quand j'ai vu la ligne, je me suis dit,
c'est pas possible. Toi, le bloc, ça t'arrive là-dedans. Après, ça nous impressionnait avec des stats. C'est bon, que dalle.
Ça veut dire, avec votre théorie, il n'y a que deux champions. Oui, il y a deux champions sur 20 ans.
Oui, bien sûr.
Non, mais arrête le bloc.
Comment ça, deux champions?
tu nous t'empêches Mario de parler pour le sortir tes saucisses.
Si on écoute la théorie de Vincent, c'est Federer, Nadal, après tous les autres, c'est
des bons. Djoko,
bien sûr.
Non, c'est le Suisse, c'est Wawrinka.
T'as Wawrinka, t'as Murray, t'as Chili.
T'as Murray, t'as tous ces mecs. Je te parle de
l'équipe.
C'est les mecs qui gagnent des grands chelems. C'est
indubitable.
Tu peux marquer une époque.
C'est tous ces joueurs-là ont
accompagné. Écoute, Mario, ce qu'elle te dit.
Laurent Serra.
Florent Serra.
C'est indubitable là-dessus. Et tu peux demander à tous les autres joueurs. On te répondra tous pareil.
Il y a une question de ceux qui ont gagné.
La valeur est à l'ordre. Dans le tennis, c'est de gagner un tournoi du Grand Chelem.
Ça fait fête, Mario. Tu vois la sortie.
C'est tout.
Non, mais Denis, toi, t'es un fan de tennis, tu vas Roland tout le temps.
Oui.
Tu aurais, là, de but en blanc, si on fait un petit quiz, t'aurais pensé que Correa, il a jamais gagné un tournoi du Grand Chelem.
Oui.
Bah, il le savait, Denis.
Il m'a amené voir un match de tennis.
Sans parler de Nadal, si on parle d'espagnol, tu mets Bruguera. Tu sais bien que Bruguera est au-dessus de Correa.
Oui, Bruguera, il a gagné.
Donc, et on ne te parle même pas de Rafa Nadal qui a gagné 14 fois Roland.
Le blond, il est arrivé avec sa stat, il pensait t'impressionner.
Oui,
Par contre,
depuis qu'il est maire, il me répond plus. Je l'ai invité au Moscato Show, il me répond plus. Donc,
c'est normal.
Serge, tu nous écoutes, pourquoi tu vas te tirer l'oreille?
Moi, je vais te dire, Serge, si tu nous écoutes, il me faut 500 mètres carrés
et deux places pour Céline Dion,
parce qu'on a que là. En plus, lui, il doit les avoir, les places à Céline Dion. Il y a toujours des mecs qui rondent par là. Écoute-moi, tu vois, on est d'accord.
Vincent
Moscato, donc sceptique sur Arthur Fils, c'est Mario Bartoli. Deux fois,
Denis m'amène voir un match. Le père d'Arthur Fils, Gaston, non, comment il s'appelle, Fils
Non, Gaël, mon fils.
M'amène voir. Contre petit Argentin, c'était Bernardo, le mec dans Zorro. Écoute-moi, aucun des deux avait gagné un grand chelem. Au bout de demi-heure, je me suis cassé.
C'était le match de l'année.
Là, j'ai une dernière question très sérieuse pour Vincent Moscato. Est-ce que tu penses que si Arthur Fils, imagine, exploit, là, il y a des blessés, il gagne Roland Garros cette année. Ça peut arriver, c'est dans les rêves les plus fous. Est-ce que Yannick Noah sera content?
Ah!
Écoute-moi, à Yaoundé, là-bas, il s'enfonce une pagaie dans le joufflu. Je te le dis.
Écoute-moi, il meurt
un instant. Quoi. Il dit 45 ans de règne, allez, donne-moi où est la pirogue, là-bas, allez, la pagaie la plus longue. Allez.
Bon, on fera pas mieux, donc on arrête là. Merci, Anthony.
C'est bonne la question, Vincent.
Oui, très bonne.
Bon, c'est la meilleure que j'ai trouvée sur le débat tennis. T'as été nul, autrement.
Pardon, j'avais la tête ailleurs.
Bon, j'espère qu'il va pas faire comme avec les mousquetaires.
Non, il est moins sur une fixation, quand même. Mais il est inquiet sur son physique, c'est normal.
Ce qui est dommage, c'est que Fils n'ait pas pu faire Roland Garros.
C'était la chance de sa vie.
Ça, c'est vraiment.
Et il y en aura d'autres. Dans un instant, Pierrot, un grand champion.
Jimmy Gressier, le champion du monde du 10 000, tout de suite.
RMC jusqu'à 18h, le meilleur du Super Moscato Show.
Pierre Dorian, Adrien Aiguin.
Vous êtes sur RMC, 16h30, dans une demi-heure, débat sur la deuxième Ligue des Champions du PSG. Alors c'est le débat du lendemain, du surlendemain de la finale, hein, le lundi, donc ouais. Ça a été vraiment du tout frais. Est-elle plus belle que l'an dernier, tout simplement?
Un moment mythique d'archives dans le journal moyen à venir à 16h45, Vincent Moscato et la fameuse séquence accroupie. Puis après 17h, Hadjar a-t-il un destin de champion du monde? C'était notre débat Formule 1 du début de saison dernière.
Allez, tout de suite on se régale d'un des meilleurs clients du moment dans le sport français, Jimmy Gressier, champion du monde du 10 000 mètres.
RMC, le Super Moscato Show.
Comme on dit là-bas, l'enfant du coin.
On dit souvent qu'un sportif, c'est un enfant déguisé en adulte.
Il est champion du monde de 10 000 mètres.
A fait chavirer la ville.
Mais voilà, non, mais c'est toujours une ville que j'aime bien venir.
Et le monde de l'athlétisme.
De mettre une nouvelle arme, entre guillemets, à son arc.
C'est encore un très gros connard.
Pourtant, Jimmy Gressier rêvait d'une carrière de footballeur.
Quand il joue sur un terrain, il a gardé cette âme d'enfant des favelas.
À l'image de son ancien voisin, un certain Franck Ribéry.
Si je puisse faire 10 ans ici, ça serait magnifique.
Son plus grand succès, c'est peut-être d'avoir déjà la reconnaissance de sa ville natale.
Je suis le mec le plus connu de Boulogne-sur-Mer. Pour l'instant, Jimmy Gressier, il est derrière moi.
Où il compte se réinstaller bientôt.
Mais j'espère que la retourne va, la vie de tournée.
Puis de se sentir confronté à soi-même, quoi, de reprendre vie avec son corps, son propre corps, ça c'est important. Breaking
news. Vous aurez rectifié de vous-même l'enfant de Boulogne-sur-Mer, oui. Jimmy Gressier, le champion du monde du 10 000.
Oui, Boulogne-sur-Mer, évidemment.
Bon, salut Jimmy.
Salut Jimmy. C'est pas tout à fait le même port de pêche que Roland Garros à côté de Boulogne. Là.
Ça c'est sûr, c'est sûr.
Ça va Jimmy?
Ouais, ça va et vous?
Comment il va? Très heureux de te recevoir après ton doublé, hein, parce qu'il y a la médaille d'or sur 10 000 et la médaille de bronze sur 5 000, c'est ça, au championnat du monde d'athlé.
Quand même.
Il y a quelques mois, tu étais venu dans le Super Moscato Show, tu nous disais, bon, tu étais plein d'ambition, mais bon, tout ça, ça semblait quand même presque inaccessible, non? Quand tu es venu au mois de mars, là.
Ah, peut-être pour vous, mais pas pour moi.
C'est pour Vincent, surtout.
Peut-être, mais non, c'est vrai que j'avais des envies en tête, je savais ce que je faisais à l'entraînement, je savais que c'était possible. Après, fallait le faire. C'est bien de parler, mais c'est bien d'agir aussi.
Alors, le palmarès, donc, c'est tout frais, champion du monde du 10 000 et médaillé de bronze sur 5 000, mais t'es aussi champion d'Europe du semi-marathon, champion d'Europe de cross-country par équipe. Le palmarès commence à s'étoffer, mais cette médaille d'or, elle est quand même presque unique, hein, pour un athlète français. Est-ce que t'es redescendu là? Est-ce que t'as réalisé ce que t'as fait?
Mais champion du monde, on ne l'est pas tous les jours. Sinon, ce serait trop facile. C'est ce qui donne du crédit à ce titre aussi. J'ai réalisé tout de suite ce que j'avais fait dans les 10 derniers mètres déjà avant la course, même que j'ai réalisé quand je passe les épaules devant, parce que champion du monde du 10 000, c'est une distance qui est quand même ultra concurrentielle et surtout des adversaires qui ont déjà fait des records du monde, des médailles aux Jeux Olympiques, des tas de choses. Et donc quand je passe les épaules, je pince la langue à la fin parce que je me dis waouh, incroyable, c'est une folie ce que j'ai fait. Et après il a fallu se remobiliser pour aller chercher cette belle deuxième médaille qui a été plus dure à aller chercher que le titre de champion du monde, parce qu'avec toutes les émotions, toutes les représentations radio, médias, toute la pression qu'il y avait sur moi, ça a été beaucoup plus dur à aller la chercher.
Alors on va se faire plaisir, on va revivre le dernier tour, les 100 derniers mètres de ce 10 000 victorieux pour Jimmy Gressier.
Jimmy Gressier est 5e pour l'instant au départ de ce 5e tour. Il fait un effort fantastique parce que d'habitude sur un 10 000 mètres, les Français ils décrochent dans l'avant-dernier tour, dans l'antépénultième tour. Et là, il est toujours avec les meilleurs. La dernière ligne droite opposée avec toujours Selemon Berega, l'Éthiopien, toujours au contact. Jimmy Gressier, il va avoir du mal dans le dernier virage parce que là, il est en train de se faire manger à l'intérieur. Mais il colle quand même. Il est 6-7e juste derrière son compère européen, le Suédois Andreas Sandgren. Le dernier effort de Jimmy Gressier, 28 secondes 40. Jimmy Gressier, il va accélérer dans la dernière ligne droite et il va passer un Éthiopien. Il est derrière Almgren. Est-ce qu'il va faire l'effort même pour s'imposer? C'est Jimmy Gressier et champion du monde. Jimmy Gressier est champion du monde du 10 000 mètres. Jamais, jamais, jamais on aurait imaginé ça. Il a gagné la Diamond League en 3000 mètres. Et là, Jimmy Gressier, le petit gars du Nord, le petit gars de Boulogne-sur-Mer, a terrassé l'Afrique, a terrassé l'Amérique à grande fiche. Il est champion du monde.
Voilà, avec Aurélien Tiersin au commentaire.
Ça dégage même de l'émotion. Alors ouais. Écoutez, ouais, c'est impressionnant.
Il n'y croit pas, Aurélien. À un moment, il dit que t'es en train de te faire manger. Hein.
Ouais. Bah, comme d'habitude sur les autres courses.
Alors si on revient sur ces derniers hectomètres là, t'es comment à l'amorce du dernier tour physiquement? Tu sens que c'est possible?
Déjà la course est tactique, donc courir à 28:55 pour les membres, enfin la plupart des coureurs, c'est assez facile pour nous. Comment je suis comme dans un rêve, parce que les deux dernières semaines après la finale Diamond League que j'ai gagnée à Zurich, qui est un peu la ligue des champions dans notre sport par rapport au foot, j'étais en condition, en train de me conditionner pendant tous mes entraînements. Je me disais, j'espère que la course va être tactique comme à Zurich, j'espère que ça va se passer comme ça, et en fait toute la course ça s'est passé comme je l'avais écrit dans ma tête. Et quand j'arrive dans le dernier 400 mètres, je me dis parfait, t'es là où tu veux être, je suis ultra facile, ultra bien. Et je me dis, quand je regarde à côté de moi, on est encore 11-13 à peu près à pouvoir être champion du monde, sauf que je savais que tout allait se décanter dans le dernier 200 mètres, et c'est pour ça que je me laisse décrocher. C'est que je sais que les mecs sont presque en survitesse et que eux vont ralentir pendant que moi je vais être en train d'accélérer dans le dernier 200 mètres.
T'as assez de lucidité pour penser à tout ça?
Oui, j'ai assez de lucidité parce que ça court pas très rapide. Donc,
mais tu sais que ça court pas rapide, non?
Ouais, je sais que ça court pas rapide. Je vois, on passe en 3:20 le premier kilomètre. 3:20, c'est une allure presque que je peux tenir sur 80 km quasiment.
Ah oui,
donc non, mais vraiment. Donc,
est-ce que ça t'avantage que ça soit moins rapide ce coup de la course?
Ce qui est paradoxal, c'est que aujourd'hui on dit que ça m'avantage qu'on m'a catégorisé comme un coureur puncher qui est capable d'aller que vite à chaque fois sur les championnats et pas finir vite sur une course tactique. Et donc aujourd'hui on va dire que c'est à mon avantage, mais
à l'époque, on me disait que c'était mon désavantage. C'est ce qui est beau d'ailleurs, c'est de faire fermer les bouches un peu à tous ceux qui ont parlé pour rien aussi. Et donc ça fait du bien. Mais aujourd'hui, je pense que je suis entre guillemets multi-distance, multifonction sur les disciplines sur lesquelles. Et comme je le disais hier, je suis pas très très bon quelque part, mais par contre je suis bon sur tous les secteurs, que ce soit 1500 mètres au marathon, et je pense que c'est ce qui fait ma force, c'est que j'ai plusieurs armes à mon arc pour pouvoir m'exprimer.
T'accélères à 100 mètres de l'arrivée, t'es à combien sur les 100 derniers mètres?
Je finis en 12-6 le dernier 100 mètres et 25-5 dernier 200.
Après 10 000 mètres.
Ouais, après 10 000 mètres, ouais.
C'est fou.
24 tours.
Faut être vif. Bravo. C'est impressionnant parce que. Faut être vif. C'est impressionnant parce que c'est l'apothéose. C'est un sport qui est très dur. C'est des sports qui sont très durs. Tu peux gagner dans d'autres disciplines, dans d'autres métiers, dans d'autres jobs, dans des sports. Mais la dureté de ce sport fait que c'est tellement rare que tu dois être dans une espèce d'ivresse quand tu gagnes. C'est quelque chose que peuvent ressentir peut-être les boxeurs à la fin d'un combat.
Ouais.
Toi, t'es en asphyxie complète. Ouais. T'as les yeux qui pleurent, des larmes de sang. Ouais. C'est tellement dur. Tu peux saigner des oreilles, avoir le nez qui coule. Non, mais c'est terrible ce sport. Tu finis en apnée pratiquement quand t'accélères. Tu respires plus comme un mec.
Ah, bah, l'acide lactique, c'est le pire ennemi de l'homme. Enfin,
chacun peut le ressentir quand tu fais. Moi, je sais, des fois, on faisait des 400. Même mec intelligent qui nous faisait faire du 400, on faisait 105 kilos.
C'était
la mode, il nous a fait enchaîner 7-8-400 comme des dromadaires par rapport à toi, bien entendu. Mais là, tu vomis,
t'as tout qui part.
Toi, j'imagine que tu gagnes là, t'es sur les pyramides.
Je suis sur la lune, hein. Je suis là-bas, tout haut. Non, mais oui, mais c'est vrai que, comme tu le dis, c'est un sport qui est très dur et surtout très, très concurrentiel. On peut avoir des pays qu'on ne peut pas avoir dans d'autres sports sur le devant de la scène.
Non,
c'est ça. Et puis, il faut le dire, hein, c'était dominé par l'Afrique de l'Est jusqu'à présent. Ouais. Après, il ne faut pas faire la fine bouche, et moi, je le dis à chaque fois. Il y a eu beaucoup plus de contrôle antidopage, beaucoup plus de pression de ce côté-là, et ça ouvre des portes. Et il faut le dire, parce que il y a 2 ans en arrière, je suis pas champion du monde avec tous les mecs qu'il y a devant. Il y a des mecs que je croyais pas. Je le disais à mes amis parce que faut pas faire de diffamation, etc. Et puis on n'est jamais sûr de la personne qu'on a en face.
Tu sentais quelque chose, quoi.
Je sentais quelque chose quand je courais. J'arrivais. Enfin, il y avait quelque chose qui allait pas. Ils finissaient comme des animaux. C'était juste pas possible.
Il y a eu 140 Kenyans qui ont été 140 suspendus.
Kenyans. Voilà.
Est-ce que on va pas en arrière, mais tu t'es dit à un moment donné, t'étais dans des courses, tu t'es dit, c'est pas normal ce qui se passe.
Ah oui, mais je me suis souvent dit, mais c'est des animaux, ils font des choses qui sont pas réalisables. Même, ils couraient n'importe comment, ils partaient comme des fous, ils craquaient jamais, ils couraient dans des courses, ils faisaient des chronos où tu te dis, non, mais attends, ok, moi dans mon sport, j'ai toujours été quasiment dans les 15 premiers mondiaux, toutes les années, il y a des mecs, ils respiraient même pas. Il n'y avait même pas rien sur le faciès.
Tu le voyais, quoi.
Ah oui, on dirait qu'ils étaient comme moi quand je suis au Maldives sur mon transat, quand ils couraient.
Mais aujourd'hui, ça va mieux aujourd'hui ?
Oui, bah aujourd'hui, en fait, la Fédération mondiale n'a pas laissé le choix aux autres fédérations de mettre des structures en place, sinon ils étaient suspendus comme la Russie. Et en fait, bah ça, 140 Kenyans qui ont été attrapés, et après, il faut le dire, il n'y a pas que le Kenya, mais aujourd'hui, ça fait un boulot monstre, et c'est pour ça aussi, je le dis, je le répète, et je remercie les instances antidopage, c'est aussi grâce à eux que je suis champion du monde aussi.
T'es champion du 10 000, mais il y a d'autres options. T'envisageais, en tout cas, tu nous l'avais dit, de monter sur le marathon, est-ce que c'est toujours d'actualité ?
C'est toujours d'actualité. Après, ça remet beaucoup de choses en question de gagner sur 5000, 10000, parce que du coup, je me dis que je peux le refaire. Et en plus, aux Jeux Olympiques de Los Angeles qui vont arriver, il faut se poser les bonnes questions. Je pense que ça va venir dans les mois qui arrivent avec mon staff. Mais
pas décidé pour le moment.
J'avais décidé avant les championnats du monde de monter sur marathon avant Los Angeles et de faire Los Angeles sur marathon.
Ok. Et tu peux faire les trois en Los Angeles, marathon, 5000, 10000.
Alors moi je suis
Question. Est-ce que tu peux
Si fan à ça.
Non mais est-ce que les Kenyans alors. Non mais est-ce que tu peux te présenter en tout cas.
Non par contre ouais, je peux m'inscrire par exemple sur le 10000. Et si je suis qualifié aussi sur le marathon, parce que je suis si je suis qualifié sur 10000 et qualifié aussi sur marathon, le 10000 mètres est 10 jours avant. Donc je peux potentiellement faire le 10000 mètres comme dernière séance. en espérant être champion olympique en dernière séance, et ensuite monter sur marathon, ça c'est quelque chose qui peut être envisageable.
En termes d'effort, c'est possible.
C'est, en termes d'effort, c'est possible. Tu as récupéré en 10 jours, tu as récupéré.
Dernière séance, c'est pas une sortie longue comme on fait nous. On prépare péniblement un semi-marathon.
Non, c'est sûr, mais tu vois, par exemple, là, au championnat du monde, quand je suis champion du monde, c'est plus facile d'être champion du monde dans l'effort que la dernière séance que j'ai fait à l'INSEP avec mon coach, parce que on a couru quasiment que 400 mètres à la fin, et on a couru sur 28,55.
Ça semble mon plan, ouais. De 10 000, le marathon. Puis après, il y a les 5 km de Millau.
Le marathon, tu le crois en combien aujourd'hui?
Le marathon, j'en ai pas encore couru pour l'instant, mais je pense que potentiellement, je peux courir 2h02.
Alors, pour préparer tout ça, tu changes d'environnement, puisque tu quittes l'INSEP, tu retournes à Boulogne avec Arnaud Digniel.
Ouais.
Pourquoi ce choix? Et est-ce que tu peux rassurer les gens qui pense que c'est peut-être un peu risqué?
Eh ben déjà, en fait, le choix a été pris déjà bien avant les championnats du monde, il y a déjà 6 mois, et avec mon coach de l'INSEP, on a travaillé pour qu'il y ait le meilleur retour possible à Boulogne avec mon premier coach qui est Arnaud Digniel. C'est pas un inconnu, hein, c'est celui qui m'a découvert, celui qui m'a fait gagner tous mes titres en espoir, mes records en espoir. Et donc, en fait, moi, je voulais rentrer à Boulogne aussi parce que j'ai besoin de repasser un peu plus de temps proche de ma famille. Ça fait 5 ans que je suis parti. Je vois mon grand-père vieillir aujourd'hui, faire une petite pétanque le dimanche matin ou dimanche après-midi avec lui, c'est important. C'est important d'avoir des moments simples, des moments de vie avec les gens qui m'ont connu entre guillemets quand je n'étais rien, et pour moi c'est important de vivre ces moments-là. Après, sur l'aspect sportif, en athlée, je pars du principe où la qualité que tu dois avoir, la première, c'est le courage. Je l'ai, qu'il soit à Paris ou à Boulogne, je l'aurai, et encore plus à Boulogne parce que les conditions sont dures au niveau de l'entraînement, et puis
au niveau du climat aussi.
Ouais, au niveau du climat, mais du coup, quand je courais dans les bonnes conditions, je serais bien. Ouais.
Non, mais quel âge il a, le papy?
Il a à peu près 80 ans.
Ça va.
Mais je pense que ça fait 10 ans que je dis qu'il a 80 ans.
Il tire ou il pointe?
Il tire, bien sûr.
Papy tireur.
Après, le groupe d'entraînement sera pas du même niveau qu'à l'INSEP. Je suppose c'est pas embêtant, ça?
Non, parce que déjà à l'INSEP, il y avait que moi qui faisais du 10 000. Et donc, en fait, je m'entraînais quasiment que mes footings avec les autres. Mais par contre, mon coach était obligé de prendre le vélo pour m'aider sur mes séances. Donc, à Boulogne, ce sera pareil. Et mon coach sera sur le vélo. Et pareil, je vais professionnaliser tout un staff autour de moi pour que ça continue à être ultra professionnel, et ensuite je pars en stage la moitié de l'année.
Et le papy en mobylette, il peut te suivre.
Le papy, j'ai pris une trottinette électrique,
c'est
donc
vrai,
ça
c'est
assez drôle. Ouais. Dans le quartier, il a son casque, il passe comme ça avec son petit sac de course, il va faire ses courses, tout le monde le croise, trottinette électrique, tout le monde dit que c'est un fou, mais c'est ça exactement.
J'ai vu un reportage, il était fier, mais c'était magnifique à voir.
Mais à chaque fois qu'il parle de moi, il pleure. Il me fait pleurer d'ailleurs. Mais là, ce week-end, d'ailleurs, j'ai fait une journée champion du monde, entre guillemets, avec mon premier éducateur dans mon quartier, mon premier entraîneur de football. C'est des gens que j'avais pas vus depuis peut-être 7-8 ans. Et on était plus de 70 au tournoi de paddle l'après-midi, et au soir. On a fait une soirée comme les nordistes savent faire, mais on a fait une soirée magnifique. Ça m'a permis de repasser du temps avec tout le monde. Et je me suis dit, mais c'est ça que je veux. Et ce qui est important dans la vie d'un sportif de haut niveau, c'est bien les qualités physique, etc. Mais c'est bien de se sentir bien dans sa tête. Dans tous les sports, je pense que la tête, elle est ultra importante. Et moi, d'être proche de ma famille, de mes amis, ça m'aide à
de
garder les pieds sur terre et pas à me prendre
de ton
pour
village,
je ne sais
de
qui.
De ta ville, de Boulogne, de tes racines.
Ouais, c'est ça.
J'aime bien.
Jimmy, dernier mot, s'il y a un rêve ultime, c'est quoi? C'est d'être champion olympique du marathon ou pas forcément?
Champion olympique tout court. Je l'ai dit, pour moi, il y avait 3 catégories.
C'est pas arrivé depuis Alain Mimoun quand même, ça serait un truc de fou.
Et c'était pas arrivé, entre guillemets, depuis moi qu'un champion français gagne les championnats du monde, donc tout est possible, comme je le dis dans le sport. Mais moi, j'avais trois critères. Il y avait gagner la Diamond League, qui était en troisième position, qui est la Ligue des champions. Gagner les championnats du monde, d'être champion du monde, et au-dessus, le graal intégral, c'est champion olympique. Et donc, je l'espère, j'ai la Diamond League, j'ai le titre de champion du monde, et j'espère que j'aurai un jour la médaille, enfin, le titre olympique.
Merci beaucoup. Jimmy.
Merci, bravo Jimmy.
Magnifique.
Merci.
Bravo et la bise au grand-père.
Ouais, merci. Voilà.
Et on accueille David Douillet pour finir l'émission.
ça va, vous allez me défendre. Vincent, il va me défendre.
On est plusieurs.
Vincent, il va le plaquer.
Jimmy Gressier, champion du monde du 10 000 dans le Super Moscato Show. Merci encore, Jimmy. Va peut-être finir comme Alain Mimoun, champion olympique du marathon. Ce serait mythique.
C'est vrai,
c'est mythique, non mais c'est vrai,
à Los Angeles.
Ou après, je sais pas.
C'était où, Mimoun ?
Mimoun, c'était à Melbourne.
Voilà.
Voilà, Alain Mimoun, Lucas Régalade, c'était un des meilleurs clients lui aussi du sport français. Alain Mimoun était génial.
Jusqu'à la fin. Hein.
Jusqu'à la fin, on l'avait eu une fois, il me semble, moi.
Oui,
Alain
mais Mimoun. Je crois que c'était vraiment à la
c'était
fin.
C'était peut-être pas dans le Moscato Show.
Non, dans un intégral sport.
Je sais qu'on l'a déjà fait sur RMC.
Je pense que c'était pendant les Jeux Olympiques.
Ah, Giro. C'est possible, ouais.
Dans un instant.
On revient tout de suite, Journal Moyen.
Alerte archive mythique de le Journal Moyen qui concerne Vincent. Si vous ne connaissez pas la séquence accroupie, c'est tout de suite, restez bien là, on va bien se marrer.
RMC jusqu'à 18h, le meilleur du Super Moscato Show.
Pierre Dorian, Adrien Aiguin.
Le meilleur du Super Moscato Show, il est 16h45, Journal Moyen, deuxième édition. Deuxième édition, retour sur Vincent Moscato, un très bel hommage hier, une personne disparue, sa famille a dû apprécier. De la mâchoire paralysée, et puis 16h55, première question du Kikadi du jour. Vous écoutez RMC, restez bien là parce que miracle de la technique et compétence de Fred Pouillet et Suzanne Folly, on a retrouvé une archive dont on vient de parler là tout de suite. Accroupi. C'est le 2665e journal moyen de l'histoire du Super Moscato Show.
C'est terrible maintenant, mec.
Oui. Avec l'IA.
En direct live, en plein milieu de la rédaction d'RMC, toutes les infos que vous n'avez toujours pas entendues sont dans le journal moyen. Deuxième édition.
Donc, service après-vente de l'émission d'hier, mais aussi d'aujourd'hui, avec un Moscato Show un peu confus. Jingle, nouveau jingle.
C'est toujours, quand tu coupes pas, ben t'as toujours un peu là. Tu sais, tu coupes pas la moitié de la pomme. Quand la pomme n'est pas dans le taureau, enfin que tu prends hein pas le. Mais là, le lait déborde.
Alors, c'est un magnifique jingle. J'adore mon Bartoli qui. Comment ? Qui le monsieur qui passe là,
j'ai fini. Non, mais j'ai fini comme ça pour rigoler. Alors, parce que je me suis perdu au milieu.
On vient de parler.
La fin, j'ai dit le lait
pour
déborde.
Les nouveaux auditeurs, les plus jeunes qui nous écoutent, on vient d'aborder dans le Moscazap, il y a 3 minutes, l'anecdote accroupie dans le Moscato Show, célèbre anecdote accroupie.
Ça y est, on l'a déjà installé.
Donc, on est en 2009, 2008, je pense, de mémoire. Vincent Moscato décrypte dans une chronique qui s'appelait Les Frelons d'Or, le 11 de légende de l'OM.
Sur un poster.
Le 11 de légende de l'OM sur un poster dans un livre. Mais vous savez, c'est légendé avec le nom des joueurs.
Oui, c'est écrit en haut, assis.
Voilà, assis, accroupi, voilà. Eh bien, Vincent Moscato nous a offert ça dans le Moscato Show. On savait que ça allait marcher l'émission pendant 20 ans derrière, après ça.
Ouais. Mais moi, mon frelon.
Oui.
Moi, c'est la Dream Team. Voilà, messieurs. 110 ans de rêve, 110 ans. Eh oui, la Dream Team de Marseille. Le samedi 24 avril, Chris Waddle avait la coupe du coiffeur pour dames de Pessac Alouette à côté de Bordeaux. Jean-Pierre Papin.
JPP.
Reviens, Jean-Pierre. JPP revient. Basile Boli, Carlos Moser, accroupi, Manuel Amoros. Alors, il y a toutes les générations accroupies. Joseph accroupi, il s'appelait.
Joseph Bonnet.
Accroupi, Manuel. Bon, hein. Accroupi.
Ah ouais, extraordinaire. Sur la photo d'équipe, il y a marqué accroupi, je crois que c'est les joueurs, mon gars. Accroupi, Joseph.
Accroupi, Joseph.
C'est fabuleux, merci.
C'est merveilleux.
Voilà.
C'est énorme, mais dans la vitesse. T'es pelle tous les noms.
C'est les frelons d'or. Alors, si pour ceux qui ont rejoint la communauté Moscato Show récemment, on faisait tous les lundis le frelon d'or. C'était un mec qui s'était distingué le week-end. Et la pompe à vélo du vendredi, voilà. C'était le pire naze de la semaine.
Qui a été le plus souvent frelon d'or ?
C'est Domenech, Armstrong et Ola.
Non, ça c'était la pompe à vélo.
Non, tous les week-ends.
Après, ça c'était pas incurable le frelon d'or. Après, dans les pompes à vélo, c'était là il y a eu Gasquet.
Il y avait un trio quand même. Allez, Vincent. On revient au service après-vente de l'émission d'hier. Alors hier, aussi moment lunaire. Hier, il est 16h02, après le générique, pour commencer la deuxième heure. Vincent a voulu rendre hommage à un joueur de rugby décédé, un joueur écossais qui s'appelle Scott Hastings. Prise d'antenne.
C'est pas bon là-dessus.
Imaginez, vous allumez votre radio, vous débutez votre Moscato Show au début d'une heure, ça peut arriver. Très bel hommage et Pierrot impitoyable.
Allez, on est rendu à Moscato. Il est 16h04, oui, tout simplement avec le Stifounet.
Ouais,
oui, Vincent. Le Tuns, Denis Charvet, The Flower, From Caen. Il y a un des frères Hastings qui est mort en parlant de
Scott Hastings. Absolument, 61.
Petite fleur.
Si vous nous rejoignez, donc 16h04 sur RMC, donc bonjour. Bonjour Vincent, bonjour Stephen, bonjour Denis, bonjour Adrien.
Bonjour
Pierre, à 17h, Eric Dimeco nous rejoint. On va vous donner le programme. Oh là, Pierrot, pas content parce que là, on recadre. Mais du coup, Vincent, quand même, décide de reprendre l'hommage plus proprement.
C'est normal quand même.
Plus sérieux, plus carré. Vincent, dans un second temps, l'hommage est réussi, la famille doit être contente, c'est parfait, Vincent.
Eh oui. Alors écoute-moi, Pierrot. Alors,
l'international.
Pas une fleur. Pourquoi j'ai fait la transition?
Oui.
Flower of Scotland. Merde. Alors, on m'emmerde. Je voulais rendre un hommage. Après, vous dites que je ne rends pas très bien les hommages.
Ah oui, mais ça, on avait remarqué. Et puis, la conclusion, c'était très bon, la fin de l'hommage. Magnifique.
Après, mais vous dites que je ne rends pas très bien les hommages.
Mais alors, mais
vous dites que je ne rends pas les hommages. Non, mais moi, tout Rasting, qui était des monstres en Écosse, des joueurs, Gavin et l'autre, comment ils s'appelaient
Scott. 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 Hastings, non, pas Hastings. Hastings.
Hastings.
Hastings.
Gavin, pas Gavin.
On te lâche pas en plus.
Non, mais.
Il n'y a rien qui va.
Gavin. C'est bizarre que depuis le temps, tu n'arrives pas à rendre un hommage à peu près. Tu sais,
c'est brouillon.
Je trouve que la famille, quand elle nous écoute, elle soit
Scott Hastings, décédé. Ce week-end, sans transition, j'ai écouté le Morning RMC, 5h-7h sur RMC, présenté par Mathieu Béliard. Virginie Fulpin, une amie du Moscato Show qu'on salue. Virginie nous parle de Neymar, la mâchoire se paralyse.
La première, c'était en 2014, c'était au Brésil, c'était la folie, c'était blessé. Et le camp de base de l'équipe brésilienne était assiégé par des milliers de supporters, des hélicoptères qui survolaient. C'était absolument...
C'est le matin,
hélicoptère.
Elle s'est parce qu'avant, elle était boulangère.
On salue Virginie qui nous écoute tous les jours et qui doit être en train de m'insulter. Sans transition, un petit tour chez nos concurrents. Je surveille un peu la concurrence. Concurrent de la chaîne L'Équipe dans L'Équipe du Soir, le journaliste de L'Équipe. Bernard Lyons, que tu connais bien, Eric.
Bernard Lyons,
on dit comme ça. Bernard Lyons, moi j'appelle ça un Lyons. Bernard Lyons nous parle du joueur argentin Panichelli, strasbourgeois blessé qui n'ira pas à la Coupe du Monde. Il adore les avant-centres argentins. Il disputera pas la Coupe du Monde. Je crois qu'on est sur un joli Moscar, un grand classique des Moscars.
Je suis peut-être pas très objectif, honnête pour une fois, parce que j'ai un petit pensant pour les buteurs sud-américains. Les Balbo, Batistuta, Crespo et tous les autres. Et on va même rajouter Trezeguet, le franco-argentin. Mais lui, par rapport à un Batistuta, il rajoute une plusieurs panels à son arc. C'est quelqu'un qui
plusieurs panels.
Plusieurs panels,
ça n'a rien à voir.
Ah non,
c'est être au panel.
Non, plus.
Si,
non,
mais non. Ah mais
non,
si,
un panel, c'est un échantillon. Enfin, c'est un.
Oui,
c'est un échantillon.
Panel. Et oui, mais ceci est.
Être au panel, toi, tu le dis, mais bon.
Oui, être au panel,
c'est par l'Académie française.
Être un peu au-dessus.
Tu joues au panel, toi?
Mais non. Être classé, Eric, tu le connais, c'est
vous savez
être au panel, ça.
Ne me prends pas tes mots, s'il te plaît. Quatrième match de démo, s'il te plaît. C'est pas parce qu'on est Marseillais qu'on est match de démo.
Arrête. Quel fumier, moi.
Cette histoire d'arc, de flèche, de cette expression,
énorme.
Suzanne Folly nous a compilé. Les derniers sportifs, et c'est incroyable. Il y a Abdelhamid, il y a Boulaïdia, il y a Henri Cévé, Maryse Evangépé, Jimmy Gressier,
Maryse aussi, Maryse.
Kylian Mbappé. C'est incroyable, cette histoire d'arc de flèche en sport, on n'y arrive jamais. Il doit y avoir un virus, c'est pas possible. On écoute.
On essaye d'avoir plusieurs flèches à notre arc, ou plusieurs quoi, je sais pas comment. Mais...
On a plusieurs flèches à notre arc, comme on dit.
C'est intéressant d'avoir plusieurs arcs à son flèche. Donc.
De mettre une nouvelle arme, entre guillemets, à son arc.
Et je pense que c'est ce qui fait ma force, c'est que j'ai plusieurs armes à mon arc pour...
C'est vraiment une nouvelle corde, une flèche à notre arc, une nouvelle...
Même le parfait Kylian Mbappé n'y arrive pas.
Surtout qu'il avait bien débuté.
Il démarre bien.
Il était pas loin. C'est plusieurs flèches à son arc.
Non, c'est plusieurs cordes.
Plusieurs cordes à son arc. Tellement ils te foutent la pression, mais les flèches n'ont rien à voir.
J'ai plusieurs flèches dans mon carquois.
Plusieurs cordes à son arc, oui, bien sûr.
Sans transition.
C'est
pas utilisé. Faut pas l'utiliser.
Mais non, mais si tu
tu maîtrises.
Depuis hier,
plusieurs cordes à son arc.
Brésil est en feu. Retour au Brésil.
Aïe. J'ai parlé français.
Profitez en un champion d'Europe!
Bonjour, ça va?
C'est pas une excuse. Excuse.
Ça va bien.
Un bel spécial.
À 15h, on a parlé de la folie autour de l'annonce de Carlo Ancelotti. Neymar à la Coupe du Monde, de l'émotion. C'était la surprise. Hein. Il était peut-être au courant de rien, Neymar. Mais quand on est brésilien, même quand on est sûr d'y être, mettre une liste pour la Coupe du Monde, ça reste un grand moment. Exemple, vidéo publiée sur les réseaux sociaux. On est chez Marquinhos. Marquinhos, Vincent, il est sûr d'y aller. 104 sélections, il est capitaine du Brésil. Donc pour lui, il va débuter sa troisième Coupe du Monde déjà, à la trentaine. Mais toute la famille est présente. Il y a une vidéo publiée. Les enfants, les amis, tout le monde est présent sur le canapé. Ils sont une trentaine chez lui. Et au moment où Ancelotti va annoncer son nom, c'est comme si c'était pour Neymar. Une sorte de récompense inattendue, alors que lui, il est sûr d'y aller. Marquinhos va arriver dans un instant, Carlo Ancelotti. et c'est la folie. C'est du délire dans la maison. Marquinhos est quasiment même en larmes. Le fait de jouer une troisième Coupe du Monde, même s'il était sûr de la disputer, ça reste un événement incroyable.
Il a toujours la peur.
C'est fou.
La peur de ne pas être choisi.
Une craquante de Carlo, tu vois.
Quand
il n'y a pas Thiago Silva, là, mon petit cœur saigne.
Ben ouais, ouais.
Tu penses qu'il a chialé encore, Thiago Silva?
Peut-être.
On n'a pas d'image? On n'a pas d'image de Chialo?
Il est plus âgé que tout le monde, lui.
Il a 40 ans.
Ouais,
il joue toujours à Porto quand même.
Je crois que Michel Drucker veut réagir à la sélection de Marquinhos. Vous êtes content, Michel?
Les joueurs de Turin ont été magnifiques. Mbappé, là, Verratti, là, tu la baraque, et puis Marquitos.
Marquitos, bien sûr. Ouais,
Marquitos. Les chips, t'as tu mets les Marquitos.
Merci, Michel. Les mecs, Grammy, ça fait toujours rire quand même. Hein.
Ouais. Mais on respecte même plus le Grand Michel.
Ah, le Grand Michel, quoi.
Accroupi, c'était extraordinaire.
Ça, c'est mythique parce que c'est pas du fake, c'est vraiment ce qui s'est passé.
On prévient tous les auditeurs qui sont parfois sceptiques. Rien n'est écrit dans ce genre de séquence. C'est du Vincent, tout est improvisé. C'est la folie
tout
de.
C'est spontané, tout est vrai. Et c'est pour ça que ça marche depuis 20 ans.
Alors, je sais que tu as la tête à Tokyo, là. Tu es déjà au Japon en vacances. Tu y es peut-être déjà, là.
Ouais, peut-être. Mais. Je suis en train de faire du shopping, là.
T'es en train au restaurant de manger de la nourriture japonaise extraordinaire. Mais reste un peu là avant de partir à Tokyo, puisqu'il y a un débat pour toi. Le Paris Saint-Germain, cette victoire est-elle plus belle que l'an dernier en Ligue des Champions? C'était juste après le titre.
Allez, on revient tout de suite pour une troisième heure de Super Moscato Show.